Radio Trip en Occitanie. Un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. En 2022, le collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, a décidé de traiter sous forme de 12 documentaires inédits les problématiques du monde rural. L'Occitanie reste une grande région rurale. 4 habitants sur 10, précisément 39%, habitent en zone rurale, où le chômage est moins important qu'en ville. Ces 4 habitants sur 10 représentent quelque 2,3 millions de personnes sur la population totale de 6 millions. 92% des communes d'Occitanie, soit près de 5000 d'entre elles, se situent dans l'espace rural. Elles représentent, par ailleurs, plus de 66 000 km², soit l'immense majorité du territoire régional. Les radios sont sorties des villes pour une virée dans nos campagnes, pour recueillir les témoignages des acteurs de nos ruralités, aussi riches que diverses. 12 documentaires sont disponibles sur les thèmes suivants: la désertification médicale, la disparition des services publics, l'intégration dans nos villages, l'électronisme, les difficultés de l'agriculture, la viticulture et le climat, l'accès à la culture, l'exode des populations, la campagne ça nous gagne, l'intercommunalité, où sont passées les écoles et les métiers qui se perdent. Aujourd'hui, les métiers qui se perdent.
On boude les chapeaux décorés de rubans et de plumes. On délaisse les armoires Louis XVI pour des meubles Ikea. On préfère racheter des chaussures toutes neuves plutôt que de les apporter chez le cordonnier. Résultat, tous ces beaux métiers sont en train de s'évanouir. Certains ont déjà totalement disparu. Savez-vous qu'il fut un temps, il existait des allumeurs de réverbères. Fini aussi le temps des cantonniers qui s'occupaient de l'entretien des routes de leur canton. Tout comme celui des crieurs de rue. Qui lisait la gazette aux passants sur la place du village ou le parvis de l'église. Ou encore celui des demoiselles de téléphone, ces jeunes filles célibataires à l'éducation réputée impeccable, chargées de mettre les abonnés en relation. Fini aussi le temps des bourreaux qui se sont retrouvés sur le carreau en 1981 avec l'abolition de la peine de mort. Mais on ne va tout de même pas les regretter. Chaque année, des professions plongent dans l'oubli. Coutelier, joaillier, cordonnier, horloger, ramoneur, ou encore charpentiers, qui sont de moins en moins nombreux. Mais ces artisans ne sont pas les seuls à douter de leur sort. Il est probable que les métiers automatisables aient de beaux jours devant eux. Deux chercheurs d'Oxford ont d'ailleurs réalisé une étude sur le sujet il y a quelques années. Ils ont scruté quelque 700 métiers. Conclusion, 47% d'entre eux seront automatisés d'ici 20 ans. Pourtant, certains perpétuent, et souvent par passion, ces métiers d'antan, parce que peut-être, d'ici peu, l'évolution de la société pourrait permettre leur réapparition. Très méconnu, le métier de rémouleur, la personne qui aiguise les couteaux, est en voie de disparition. Il ne reste en France qu'une poignée de ces artisans qui sévissent sur les marchés ou sillonnent la campagne pour proposer leurs services à domicile. Dans le vieux Béziers, au 13 de la rue Méran, Tristan de Noyel travaille au fond de son atelier. Reconverti vers un métier de passion, mais aujourd'hui tellement rare, son enthousiasme donne de l'espoir. L'espoir d'une société de réparation, de récupération, plutôt que de consommation.
Tourne la roue, tourne la meule trempée dans l'eau qui a fut en biseau.
Je m'appelle Tristan de Noyel, je suis rémouleur. Donc rémouleur, c'est un métier qui consiste à entretenir, à réparer et à affûter des outils taillants. Avant, j'étais chargé de mission pour des associations d'éducation populaire. Puis, à un moment donné, je me suis dit que ce que je faisais peut-être n'était pas toujours efficace au niveau du sens que j'y attendais. J'avais besoin de concret, j'avais besoin de me sentir utile de façon pragmatique, concrète. Je suis quelqu'un qui a toujours souhaité accorder, donc, comme je le disais, du sens à mon activité et aussi et surtout de la passion. parce que le travail, globalement, c'est contraignant. Ça peut aussi être pénible. Tous les boulots peuvent être pénibles. Et donc, du coup, pour moi, la passion, c'est le bon remède pour lutter contre la pénibilité au travail. C'est ce qui me donne un petit peu de courage et de bonheur quand je fais mon travail. J'ai toujours été passionné, depuis ma plus tendre enfance, par les couteaux. Parce que pour moi, les couteaux jouent aujourd'hui un rôle central dans nos vies. Et c'est aussi un outil qui a participé à notre évolution. C'est un outil formidable que l'on utilise plusieurs fois dans la journée, quelle que soit son activité dominante. Et c'est ça que je trouve fascinant dans le couteau. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a amené à me mettre à l'affûtage et à vouloir, au départ, croire à une idée un peu folle. Parce que il y a 4 ans en arrière, même mes proches me regardaient avec des yeux ronds quand je leur ai dit que j'allais être rémouleur. Et alors pourquoi je me suis lancé dans cette idée un peu folle? Partant du principe qu'il y avait quelque chose à faire. Parce que cela correspond à un besoin. Un besoin pour les professionnels, que ce soit dans la restauration, au niveau d'activités bouchères, les coiffeurs. On est nombreux à avoir besoin d'avoir des outils efficaces, quoi, des outils qui taillent. Et donc, du coup, voilà, j'ai pris mon bâton de pèlerin, on va dire, et j'ai utilisé mes anciennes compétences. Ancienne compétence, mais toujours d'actualité, parce que quand on change de métier, on fait ressurgir aussi ses savoir-faire, on transfère nos compétences dans autre chose. Et donc, du coup, j'ai mené un travail de pédagogie. Donc, au début, sur les marchés, et là, je me suis attaqué au fait d'amener la prise de conscience sur l'intérêt de renouveler, réparer, entretenir, plutôt que jeter et de surconsommer.
Tourne vite, tourne ma meule, tourne vite, tourne ma meule, meule, meule.
La mondialisation, les évolutions techniques, technologiques, les accélérations dans les transports aussi, hein, avec un bouleversement total des circuits de distribution et des valeurs marchandes, ont mis un sacré coup au niveau de ce métier-là. C'est ce qui a amené le fait qu'on ne voit quasiment plus de rémouleurs. Maintenant, effectivement, le contexte change. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont toujours été convaincus de l'intérêt de réparer. Et puis d'autres qui se posent des questions suite à des discussions aussi. Et puis enfin, de façon plus générale, probablement que le contexte d'inflation, avec les effets aussi post-Covid, au niveau des matières premières qui sont difficilement accessibles parfois, et puis un enjeu fort aussi au niveau des faits réels sur notre planète, que cela soit au niveau du réchauffement climatique, mais aussi au niveau de la raréfaction de certains matériaux, je crois qu'effectivement, cela se fixe à nous comme étant un enjeu de notre époque. Comment prolonger l'existence d'outils? Ça vaut aussi pour le textile, selon moi, et d'autres professions. Mais oui, je crois que le contexte, potentiellement, peut favoriser des démarches différentes de ce côté-là. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de restaurer aussi et de réparer des couteaux ou des outils qui ont une forte valeur affective. Et ce que je trouve passionnant, c'est de voir le retour des propriétaires lorsqu'ils réalisent le travail effectué. Et ça, c'est un vrai bonheur. Et c'est un complément de salaire, on va dire. Et c'est une des raisons pour lesquelles je continue à faire ce travail-là. Parce que entre sentiment d'utilité, mais également, je dirais, transmission de bonheur, je suis heureux. Un touré à polir, hein. Donc là, pareil, on va gérer le jeu de frottement parce que l'idée, ça n'est pas de... Parce que là, c'est un manche en corne, un vieux manche en corne. Donc, c'est un matériau qui va être sensible à l'eau et à la chaleur. Donc, l'idée, c'est de trouver le bon équilibre entre brillance et chaleur, pour pas que ça n'éclate, quoi. Bon, ça fait appel aussi à un jeu de sensations, hein. C'est ça qui est plaisant, d'ailleurs. Et de voir la transformation concrète de quelque chose qui était terne éclatée et abîmée en un manche qui brille. Pour certains, aurait été considéré comme vieux, moche et cassé. Bien au final, il va repartir pour un tour et puis il emmènera avec lui un morceau d'histoire ravivé, quoi. C'est intéressant d'arriver à jouer avec l'histoire aussi.
Donnez-moi, je vous prie, vos ciseaux, vos couteaux, vos sabots, vos bateaux. Donnez-moi tout, je vous prie. Je remoule et je scie.
Souvent un monsieur déambulait avec un système roulant et un entraînement mécanique. Hein. Alors au départ, l'entraînement mécanique, il se faisait avec l'aide d'un apprenti. C'est-à-dire que l'entraînement de la meule se faisait à la main. Ensuite, on a eu l'apparition d'un système à pédales. Et là, du coup, le rémouleur devenait autonome. Mais probablement que c'est aussi une première fêlure. Au niveau du métier. C'est-à-dire que, est-ce que d'une certaine manière, ce n'est pas ce qui a participé à déconstruire une forme de transmission de savoir. Bon, et puis après, ce qui a enterré totalement l'histoire, c'est la mondialisation et l'évolution technologique. Hein. En fait, là, je mets un peu d'eau parce que quand on affûte, en fait, il faut être très vigilant à la chaleur. La chaleur, elle est essentielle dans le processus de forge pour obtenir des propriétés mécaniques de dureté et de souplesse suffisantes pour justement garantir un outil performant dans le temps. Maintenant, si je suis pas vigilant à la température, je vais porter atteinte en modifiant les capacités techniques, mécaniques de l'acier. Et du coup, ça peut être fâcheux. Donc là, par exemple, moi, je travaille toujours avec de l'eau pour éviter que l'acier brûle. Donc là, je vais affûter. Je vais affûter les tables. Donc là, je suis en train d'enlever une infime partie d'acier d'un côté et de l'autre de façon équilibrée pour reformer un biseau, un angle. Et c'est en enlevant une infime partie de matière que je vais permettre au couteau, en l'occurrence, de pouvoir raviver vraiment son pouvoir de coupe, quoi. Et là, le secret, c'est d'être concentré, attentif et constant. J'arrive à...
Les gens disent ce qu'ils veulent, mais lui ne s'en fait pas. Tant que tournera sa meule, la terre tournera. Au soleil, sa meule brille, et chaque goutte d'eau danse dans les yeux des filles, mieux qu'un joli cadeau.
Moi, je fais les marchés l'été. Et maintenant, je suis bien moi dans mon atelier boutique et les gens viennent à moi. Et je trouve ça intéressant aussi. Parce que je ne suis pas sûr qu'il faille voir le métier comme il était avant. Moi, je crois que l'enjeu, c'est comment s'impliquer dans l'exercice de ce métier en tenant compte de mon époque, en tenant compte des technologies, en tenant compte de certaines réalités. Je ne suis pas sûr qu'il faille automatiquement que le rémouleur soit mobile toujours et ambulant. Je suis un rémouleur qui s'implique avec ses nouveaux moyens. Alors, malheureusement, j'appuie sur un bouton, hein. Mais en même temps, à 41 ans, je n'envisais pas non plus de m'entraîner pour faire le Tour de France. Bon, voilà. J'ai fait beaucoup de travail parce que j'étais passionné, comme je le disais. Donc beaucoup de recherches en me posant des questions. Parce que, en fait, mais ça, je pense que ça vaut pour beaucoup d'activités artisanales. C'est vraiment la main qui fait. Il y a la théorie et la pratique. Et c'est vraiment la main qui va mettre à l'épreuve la théorie. Et c'est la main qui va venir questionner en permanence. Et donc, à un moment donné, moi, j'ai fait un stage chez un coutelier. Puis ensuite, pour observer, etc. Et puis après, c'est l'expérimentation. Hein. Il y a une vieille formule qui dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bon, là, à mon sens, c'est aussi un peu pareil, quoi.
Bien que le gabarit d'un clavecin rende un envoi par la poste quelque peu improbable, on nomme facteur l'artisan qui les construit, les restaure et les entretient. Un beau métier, peu connu. Tout d'abord, un petit historique. C'est sous la forme faiseur que le nom de cette profession apparaît au Moyen Âge. À la toute fin du XVIe siècle, les faiseurs, habitant Paris, s'organisèrent en corporation et arrivèrent à obtenir de Henri IV des lettres de création du métier de faiseur d'instruments et de musique en maîtrise. La durée de l'apprentissage était fixée à 6 ans, après lesquels l'obligation de se faire recevoir maître par deux jurés comportait l'exécution du chef-d'œuvre. De nos jours, le terme faiseur est abandonné. On distingue le facteur, qui s'est spécialisé dans la fabrication des orgues, des pianos, des harpes, du luthier, qui fabrique les instruments à cordes à manche avec ou sans archet. C'est un travail artisanal, de grande précision, qui demande une connaissance approfondie des matériaux utilisés. C'est donc un métier qui exige d'être manuel, mais aussi d'être méthodique, méticuleux et surtout d'avoir une bonne oreille. Un clavecin ne peut pas se fabriquer à la chaîne. Trop d'éléments dépassent le cadre de compétence d'une machine. Cela demande du temps. Rencontre avec Martine Argeliès, facteur de clavecin depuis 1981 à Montpellier.
Nous construisons des clavecins qui sont des instruments qui ont existé entre le XVIe et le XVIIIe siècle, plus ou moins, très grossièrement, à partir des plans qui sont édités par les musées quand ils restaurent les anciens. Puis voilà, on part de l'arbre et on arrive à l'instrument fini avec une mécanique, une décoration le plus adaptée possible, on espère, aux rêves de nos clients. Moi, je me suis retrouvée un peu par hasard à m'occuper de piano parce qu'on avait près de Montpellier la seule usine française de piano et que j'étais amie intime avec le garçon qui a été directeur technique, directeur général de Rameau, qui est devenu ensuite Pleyel. Et en piano, on fait uniquement de la restauration, c'est un instrument industriel, on ne fait pas de construction. Et donc, c'est un peu frustrant parce qu'on revient au projet de quelqu'un d'autre. Alors que là, d'abord, il y a un plaisir du répertoire, c'est une mentalité complètement différente. Le clavecin, ça date d'avant la mégalomanie, c'est une façon maniérée, retenue d'exprimer ses sentiments. Ensuite, c'est la liberté totale. On a un tas de bois au départ, un instrument fini à l'arrivée, et voilà. Le clavecin, c'est né vers 1300, mais la grande époque, c'est 16e, 17e, 18e, surtout 17e, 18e. C'est un instrument à cordes pincées, donc comme une grosse guitare à clavier. n'y a pas de toucher dynamique, donc on ne peut pas faire de crescendo, de déchirant, et c'est ce qui fait que cet instrument n'exprime pas bien la musique romantique. C'est une structure beaucoup plus légère, les cordes sont tendues entre 3 et 12 kilos, le piano c'est entre 70 et 80 kilos par corde, donc on n'est pas du tout dans la même catégorie, on est comme une guitare ou un violon. Et c'est la mécanique, l'élément de différenciation essentiel. Là, ce sont des cordes pincées. On appelle ça pincée, mais c'est exactement comme une guitare. Il y a une espèce de petit ongle qui va gratter la corde. Sauf que le guitariste, il peut pincer plus ou moins fort, tandis que là, c'est donné au départ par la taille du bec. Et le piano, c'est des cordes frappées par des gros marteaux. Au départ, les premiers pianos ont été fabriqués dans des structures de clavecin. Mais très rapidement, les structures sont devenues beaucoup plus lourdes, épaisses, raides, tendues, pour supporter l'énorme tension de cordes qui valorise les instruments à cordes frappées en leur permettant d'avoir plus de dynamique. Et nous avons des tas de compositeurs squattés par les pianistes, principalement au XVIIIe siècle, Bach, Handel, Scarlatti, Rameau, Couperin... et ensuite, il y a des quantités de compositeurs beaucoup moins connus parce qu'ils sont du 17e et qu'ils ne sonnent pas bien au piano. Louis Couperin, donc l'oncle de François, toute l'école italienne, Froberger, les Nordiques, Svelling. En Italie, on a Frescobaldi, Rossi, enfin, il y en a des millions. Le clavecin avait complètement disparu à la Révolution parce qu'il avait... un mauvais look social, et parce qu'il n'était plus à la mode, il n'exprimait plus le... il ne servait plus pour le répertoire à la mode à cette époque-là. Et à l'époque, on n'avait aucun sens de l'ancien. On détruisait un château ancien pour construire un château moderne dessus. Donc il a été vraiment rayé de la carte. Et ensuite, le système des conservatoires a tout misé sur le piano. Enfin, il n'y a plus d'enseignement du tout de clavecin. Et au redémarrage de tout ça, le problème, c'est qu'un enfant qui démarre joue souvent l'instrument du voisin ou du cousin qu'il aime bien. Comme le voisin ou le cousin n'a pas de clavecin, on est dans une trappe à rareté. Mais si on regarde ce que les gens écoutent comme musique classique, il y a beaucoup de musique 17e, 18e, sauf que ce n'est pas suivi d'effet dans la pratique, alors que c'est un instrument domestique très très agréable. Et je pense qu'on est aussi responsable d'une partie du problème parce qu'on est en production artisanale, et que donc on est infiniment plus cher qu'un piano chinois. L'instrument bourgeois, c'est le piano. Le clavecin, c'était l'instrument de l'aristocratie, et c'est pour ça qu'il a très mal vécu la Révolution. Ils ont été brûlés en place de grève, c'est là où il y avait la guillotine. Donc c'était vraiment symbolique. Le 19e, c'est une période de révolution technique extrêmement importante, d'évolution énorme des techniques. Et donc, quand on a recommencé à fabriquer les clavecins dans les années 1950, parce qu'avant, ça existait vraiment à l'état de trace et pas forcément convaincante, on est reparti avec des techniques qui avaient complètement changé. On a redécouvert en même temps le répertoire, comment l'interpréter, parce que ce qui était évident à l'époque n'était pas écrit, donc c'est plus du tout évident un siècle et demi après avec le répertoire qui a complètement changé. Pareil pour la facture instrumentale, il y avait des tas de choses qui n'ont pas été transmises et qu'on a redécouvertes petit à petit. L'artisanat, c'est sûr qu'au XXIe siècle, c'est un peu compliqué parce que la main-d'œuvre est chère et qu'on n'est pas efficace et par rapport à une usine. Enfin, si vous visitez une usine de piano, c'est impressionnant, des choses que nous, on met des heures à faire. Quand l'échelle de fabrication, c'est plusieurs milliers d'instruments, à l'heure actuelle, ça s'est énormément concentré, c'est quasiment tout parti en Asie, et l'échelle de fabrication, c'est des dizaines de milliers d'instruments. Eh bien, ça s'automatise complètement. On appuie sur un bouton et des choses qu'on met plusieurs heures à faire, nous, là-bas, ça se fait en une heure. Cette année, on a une explosion de l'exportation, je ne sais pas pourquoi, probablement parce que notre référencement naturel devient mature dans les pays germanophones, parce que je vois qu'on a vendu en Suisse, en Allemagne, en Autriche, beaucoup plus que d'habitude. Et sinon, normalement, c'est un quart à l'export, trois quarts pour la France, et en France, plus ou moins... un tiers en région parisienne et un tiers pour les conservatoires et un tiers pour le reste de la France. Depuis assez longtemps, il y a un regain d'intérêt pour le répertoire. Et en fait, on est trop petit pour savoir si notre situation est représentative du marché. On est petit, isolé. Nous, on est dans une lointaine province, loin de Paris, où tout se passe. Et donc, peu informé. Attendez, hein. Bon, on va dire que ça va comme jeu. C'est juste pour vous faire entendre. Il faudra couper la fin. Donc, ça ressemble un peu à un piano à queue en beaucoup plus petit, beaucoup plus léger. Sauf que c'est léger et décoré. Il y a des fleurs, des oiseaux, des couleurs. C'est pas tout noir comme un piano. Il y a un assortiment, il y a de l'épicéa pour la table d'harmonie, c'est le bois type de la lutherie, on en trouve sur les pianos, les harpes, les violons, tout sauf les guitares en fait, tout ce qui a une table d'harmonie. Et ensuite, les caisses, ça dépend du type d'instrument, il y a du peuplier ou du cyprès sur les italiens, et puis ensuite du noyer, du buis, du poirier, de l'ébène, du hêtre. Enfin, chaque bois a des caractéristiques soit acoustiques, soit techniques différentes. L'épicéa vient d'Allemagne du Sud, d'un éleveur spécialisé. Alors là, il n'y a pas de souci, il suffit de payer. Et tout le reste, c'est compliqué. C'est des scieurs français, ce sont des essences locales, sauf l'ébène. Et c'est de plus en plus compliqué parce qu'on n'est pas dans une région où le travail du bois se fait régulièrement. Et il vient d'un peu partout. Moi, la plupart du temps, il est scié dans l'Ain et mon scieur est dans l'Ain. Alors avant, c'était des cols de peau et d'os qu'on pouvait doser pour obtenir la même raideur que dans un bois en continu. Et on pouvait doser aussi la résistance pour que certaines pièces cassent avant d'autres. À l'heure actuelle, on a des cols spéciales pour la lutherie qui ont la bonne raideur et qui ne pourrissent pas, qui ne sentent pas la vieille chaussette, qui n'attirent pas les mouches, qui sont bien, faciles à utiliser. On en a toujours trois plus ou moins en marche en même temps. Donc c'est vraiment très très difficile de savoir. Mais en moyenne, on met 3 mois par personne et par instrument. Alors, on a un label qui s'appelle Entreprise du patrimoine vivant, qui essaye de protéger des espèces en voie de disparition, qui a renouvelé tous les 5 ans. Donc là, il faut que je la renouvelle, que je fasse renouveler le label. Et sinon, des subventions, j'en ai touché il y a 2 ans, mais c'est très rare. Et c'est la région qui a donné une subvention pour aider à l'exportation et à l'équipement des ateliers. Nos clavecins de concert qu'on a fait à notre goût et comme on avait envie. Et sinon, pour tous les autres, on essaye de s'adapter aux desiderata de nos clients. Les plans sur lesquels on travaille sont les plans qui sont édités par les musées quand ils restaurent les anciens. Et ces clavecins anciens ont été modifiés au fil du temps. Donc on commence par refaire un plan qui marche. Ils sont parfois déformés, parfois même plus en état d'être joués. Donc on commence par refaire un plan qui marche bien, bien au carré. Ensuite, il y a des instruments qu'on a redessinés pour avoir des caractéristiques particulières. Lui, c'est pour avoir un instrument plus compact, pour qu'il rentre plus facilement dans les maisons. Le clavecin vertical que vous voyez là-bas, je pense qu'on est les spécialistes mondiaux parce qu'il faut un atelier masochiste pour faire ça, parce que la mécanique est très compliquée. Et là, on a redessiné l'ensemble d'harmonie parce qu'il fallait un château en hauteur. Donc, il ne rentrait pas dans les maisons aux normes du 21e siècle. Et donc, on a fait un instrument qui est aux normes des maisons modernes. Les clavecins sont des instruments hypersensibles aux variations d'hygrométrie. On a des humidificateurs qui nous aident à passer les pics de sécheresse. Et ici, on a rarement des pics d'humidité, on vient d'en avoir un, mais on a beaucoup souffert. Mais bon, ça, on n'est pas équipé pour gérer ça parce que c'est trop peu fréquent. Ça ne sert à rien de faire un instrument qui sonne bien s'il ne marche pas. Ça ne sert à rien de faire un instrument qui marche bien s'il ne sonne pas bien, etc. Donc, il faut que du début à la fin, tout soit correct. Et effectivement, c'est très, très minutieux. La mécanique, c'est des petites pièces qui glissent dans des réglettes graduées, qui doivent retomber par leur propre poids. Ben, elles ne pèsent rien, sinon on n'a pas la sensibilité au bout du doigt. C'est très minutieux, effectivement. C'est pour ça qu'on y passe beaucoup de temps. C'est une guitare à clavier, c'est un instrument qui a beaucoup d'attaques, un son de guitare et un toucher non dynamique, c'est-à-dire que toutes les notes sont semblables. En intensité, et donc on structure la phrase musicale en jouant sur la durée des notes, on cherche une espèce d'effet de swing.
Restaurateur de livres anciens, le relieur est le gardien d'un savoir-faire ancestral. Il travaille à la main avec des matériaux nobles. Il intervient généralement sur des livres rares afin de les rendre à nouveau solides et manipulables tout en gardant au maximum les matériaux d'origine. Marie-Laure Tanguy exerce dans l'écusson au cœur du Clapas. Sa minutie, sa patience s'allient à sa passion et à son désir de conserver le patrimoine.
Je m'appelle Marie-Laure Tanguy, je suis relieur, restauratrice de livres anciens. C'est un métier passion. C'est quelque chose que j'ai commencé tout doucement en Maison pour tous quand j'avais 13 ans, dans la ville de Grenoble. Et ça a été une révélation. C'est un métier qui est très sensuel aussi, parce qu'il y a des odeurs, il y a un toucher. Et ça m'a, j'avoue que j'ai eu beaucoup d'émotions dès le début. Donc j'ai commencé par ces cours en Maison pour tous, hein, tout en allant au collège. Puis après, je suis allée au lycée. Mes parents m'ont dit « passe ton bac d'abord », comme beaucoup de parents, ils ont sûrement bien fait. Voilà, donc du coup, après mon bac, j'ai passé un CAP. Je me suis formée chez un relieur de la ville de Grenoble. Et après, j'ai pris des cours chez un maître artisan lyonnais qui m'a appris à travailler de façon beaucoup plus soigneuse. Et j'ai pu avoir mon CAP. Voilà, ça fait 40 ans que j'exerce ce métier. Je l'ai exercé en tant qu'ouvrière, en tant qu'artisan. J'ai donné des cours et j'ai eu la grande chance de rentrer aux archives départementales de l'Hérault, une institution où j'ai travaillé pendant 10 ans. À ce moment-là, je n'étais que, entre guillemets, que relieur. Hein, et les archives avaient vraiment besoin d'une restauratrice de livres anciens. Donc j'ai eu la grande chance de pouvoir me former à ce métier-là. Pas dans le même esprit que la relure, à la Bibliothèque nationale, aux Archives nationales, et de faire l'école Estienne également pour me perfectionner en dorure. Pour moi, ça a été vraiment une grande chance et d'exercer ce métier aux Archives départementales également, puisque j'ai eu à restaurer des ouvrages très anciens, des ouvrages patrimoniaux. Donc ça a été une très grande chance. Mais après, le métier d'artisan, de pouvoir exercer cette profession en tant qu'artisan, basculer de la relure à la restauration de livres anciens me plaisait beaucoup, pouvoir donner également des cours, ça c'était pour moi c'était intéressant, faire de la formation. Je conseille beaucoup également de jeunes qui veulent faire ce métier. J'exerce dans ce lieu depuis 13 ans en tant qu'artisan.
Thank you.
J'aimais beaucoup lire, et ce qui est assez surprenant, c'est qu'il n'y avait pas de livres chez moi. Voilà, donc mes parents étaient très heureux de m'en offrir. Hein. J'ai toujours aimé l'orthographe, j'ai toujours aimé écrire, lire. Je suis très sensible aux textes bien écrits. Et le livre, pour moi, c'est peut-être parce qu'il n'y en avait pas à la maison. Voilà, j'ai toujours été très sensible. Je me souviens, les premiers ouvrages que j'ai pu acheter, c'était des ouvrages qui me donnaient beaucoup d'émotions. Et voilà, j'avais besoin d'avoir des livres autour de moi. Et voilà, c'est vraiment l'écrit. Et après, le format livre qui m'intéresse beaucoup. Et voilà, j'aime beaucoup le livre en tant que livre, mais que ce soit livre de poche. Je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions aussi sur les premiers livres de poche. Et puis après, les ouvrages du 18e, du 17e, du 16e. Voilà, je trouve que cette évolution des techniques aussi dans la reliure me touche beaucoup, quoi, une histoire du livre. Et c'est par l'intermédiaire de la reliure que cet intérêt, parce qu'il faut pouvoir situer les ouvrages dans les siècles, ils ont évolué. Donc c'est vrai que l'intérêt historique est venu par la suite. Et c'est vrai qu'il faut avoir cet intérêt historique pour faire de la restauration de patrimoine. Et on parle d'archéologie du livre. Quand j'ai un ouvrage du XVIe siècle, par exemple, à restaurer, parfois il faut démonter, parfois il ne faut pas démonter. Donc il faut connaître l'histoire de ce livre. Voilà, et c'est vrai que c'est beaucoup, enfin, c'est un métier d'émotion. Parce qu'un ouvrage du XVIe, on imagine le restaurateur, le relieur du XVIe siècle, en train de relier, voilà, de faire les mêmes gestes que moi. Et moi, il faut que puisque la reliure a évolué, les techniques ont évolué, il faut que je me mette dans la même situation que cette personne qui a eu cet ouvrage en main et qui a fait la reliure. Donc on n'utilisait pas les mêmes matériaux, on n'avait pas les mêmes outils, les mêmes instruments, les mêmes machines. Donc il faut connaître toute l'histoire de ces techniques pour pouvoir aborder la restauration de ces ouvrages anciens. Il y a des ouvrages très récents que je ne suis pas en capacité, et je pense qu'on ne sait pas vraiment... Enfin, peut-être certains le savent, mais on ne sait pas vraiment encore les aborder quand il y a des dégradations sur ces ouvrages anciens. Mais c'est vrai que c'est important de savoir comment ils ont été réalisés. Sur les ouvrages récents, connaître les colles qui ont été utilisées, qui vont nous poser problème, ou voilà, les couvertures, de quelle façon elles ont été réalisées, pour savoir si on peut, de quelle façon on peut les aborder, et pour pouvoir les conserver et les transmettre aux générations suivantes. Alors, il y a très peu de restaurateurs de livres anciens. Il y a plus de relieurs. Alors, pour être certains démarrent cette profession de restauration de livres anciens sans être passés par les reliures. Je trouve ça un peu... Bon, après, ils peuvent très bien se débrouiller, hein, mais je trouve ça un peu dommage parce que la reliure, quand on passe son CAP de reliure, on apprend la reliure comme on la fait actuellement. C'est-à-dire, c'est très artisanal, hein, toujours, mais elle est différente de celle qui était exercée au XVe siècle. Donc je pense que c'est bien d'avoir ces techniques de reliure artisanale avant de s'attaquer à la restauration de livres anciens. Voilà, là on utilise la cisaille. Voilà, pour couper aux dimensions requises. Pour le cuir, on parle de parure. Voilà, on pare le cuir pour amincir. Et donc pour cela, j'utilise un couteau à parer sur une pierre à parer. Donc cette pierre a été trempée il y a, on va dire, 40 ans dans de l'huile de lin pendant 48 heures. C'est une pierre marbrière. Et voilà, donc je peux aiguiser mon couteau à parer sur cette pierre, et après on amassit, voilà, les parties qui doivent l'être. Voilà, là j'ai un cuir, c'est du buffle, c'est un cuir que j'aime beaucoup parce que ce sont des grandes peaux qui ont un grain de peau qui peut être très large et très fin. Voilà, donc là j'amassis les parties qui doivent l'être. Voilà. Et régulièrement, on peut aiguiser donc le cuir, le couteau à parer sur la pierre. Voilà, pour refaire son fil En restauration de livres anciens, on peut s'adapter, prendre le même cuir que celui qui a été utilisé à l'époque. Mais après, il y a souvent du mouton, voilà, ce qui est une peau qui vieillit souvent très mal. Et du coup, il est vraiment conseillé d'utiliser du veau, qui a une résistance mécanique qui est vraiment très intéressante. Et c'est une peau qui se travaille très très bien. Voilà, pour la parure, elle se travaille beaucoup mieux que d'autres peaux. Et pour la dorure, voilà, c'est une peau qui est superbe, hein, qui est vraiment très, très facile. Puis on a des consignes des archives nationales aussi. Donc c'est vraiment le veau qui est conseillé pour la restauration des reliures en cuir. Mais après, quand on fait de la reliure en création, on peut utiliser absolument ce qu'on veut comme revêtement. Hein. Ça peut être des tissus, ça peut être des toiles, ça peut être du papier, ça peut être des cuirs, ça peut être des peaux de poisson, ça peut être... Enfin, tout est imaginable et tout est faisable. Après, il faut voir ce que ça va donner dans le temps. Alors, les peaux, je les achète à Grolet, dans le Tarn. Et sinon, on a un fournisseur en reliure qui est une institution, une très, très belle boutique. D'ailleurs, je vous conseille d'aller y faire un saut si vous allez à Paris, dans le 6e arrondissement. C'est les établissements Relma. Voilà, c'est vraiment une institution. Ils sont en plus dans leur jus et la boutique est charmante. Ça m'arrive de refuser des restaurations parce que le livre est parfois en trop mauvais état. Ou ça peut arriver qu'un livre qui a 200 ans ait été... les fournitures utilisées à cette époque-là ont très mal vieilli. Ou on peut avoir des cuirs qui ont été... il faut amincir le cuir avant de le poser sur un livre. Parce que le tanneur nous donne un livre qui a nous livre un cuir qui a une certaine épaisseur, et il faut, sur certaines parties de l'ouvrage, il faut amincir ce cuir. Et il y a une époque, on les amincissait vraiment énormément. Donc, et puis il peut y avoir du travail qui a été mal fait par le relieur il y a 100 ans ou 200 ans. Donc parfois c'est très compliqué d'aborder ces reliures. Et puis parfois j'ai des limites aussi. Donc je sais que tel collègue qui habite à tel endroit en France travaille surtout sur des ouvrages de cette époque-là et qui va être meilleur que moi. Donc là j'hésite pas à diriger les gens vers d'autres professionnels éventuellement. Mais ça m'arrive, voilà. Mais ce qui m'arrive de refuser, c'est des ouvrages très récents. Et je sais que le résultat ne va pas être satisfaisant. Enfin, en tout cas, il ne me satisfera pas. Donc, je préfère ne pas le faire et voilà, oui, m'abstenir dans ces cas-là.
Voilà, alors ici, c'est l'étau. L'étau, donc, qui me permet de serrer. Voilà, il y a deux lèvres métalliques, là, qui me permettent de serrer mon livre entre ces deux lèvres. Et donc, je m'en sers à plusieurs moments. Donc quand j'ai certains collages à faire, quand je veux les faire et je veux contraindre mon livre dans cette position, donc je le mets dans l'étau et je fais mon encollage. Ou sinon il y a une partie qui se fait après la couture de l'ouvrage, ça s'appelle le mors, M-O-R-S. C'est-à-dire qu'on va rabattre de chaque côté des lèvres de l'étau les cahiers du livre cousu, à l'aide du marteau. Donc voilà, on utilise le marteau. Et je fais descendre les cahiers. Voilà, de chaque côté. Donc là, si la couture de mon ouvrage a été bien faite, et ben généralement, voilà, l'endossure, hein, le fait de faire ses mors, l'endossure se passe très bien. Alors, la reliure est peut-être plus physique que la restauration, parce qu'en restauration, on fait pas de série. Si par exemple, vous avez une série à faire en restauration en livre ancien, 10 volumes d'un même thème, ça va jamais être les mêmes dégradations sur chaque ouvrage. Tandis qu'en reliure, si on vous donne 10 tomes à faire, vous allez tous les démonter, tous les coudre, tous les endosser. Et puis parfois, en restauration, on peut avoir, et en reliure, de grands ouvrages. Et là, c'est pas toujours simple à faire. Donc parfois c'est vrai que ça peut être compliqué et d'être j'ai eu à demander à un collègue de venir m'aider sur un très gros ouvrage parce que physiquement j'avais du mal à le traiter. Alors il faut être vigilant pour l'ouvrage, ça c'est sûr, à tout moment. Après on utilise des instruments de coupe, donc on utilise le scalpel, un outil qui s'appelle la pointe, donc voilà, qui équivaut au scalpel. Le scalpel a une lame qui est toujours bien aiguisée puisqu'on peut changer la lame autant de fois qu'on le veut. Donc ça, c'est des instruments de coupe, donc forcément il faut faire attention. Il y a la cisaille qui peut aussi être dangereuse, donc après il faut savoir se servir de tout ça, et le massicot également, mais c'est des instruments sur lesquels il y a des sécurités aussi, voilà, et puis il faut toujours être attentif, hein, bien entendu. La presse me sert à différents moments dans la reliure du livre ancien, pour sécher quand on veut contraindre le livre ou les papiers, les cartons. Donc on fait sécher sous presse. Voilà, et il y a différents moments où on a vraiment besoin de mettre en presse et de faire une presse longue de 24 ou 48 heures pour bien aplatir les feuillets quand on les a démontés, qu'on a fait des restaurations, on a fait des ajouts de papier japonais, par exemple, pour les réparations. Et après, il faut tout remettre bien à plat. Et où les livres qui ont été gondolés par l'humidité, donc voilà, ça c'est important. Ouais. Voilà, ça c'est une presse à main. Il y a également des presses à percussion qui sont métalliques et qui ont encore beaucoup plus de force et de poids. Quand vous encollez un papier ou un carton, l'humidité de la colle va faire réagir les matériaux. Et si on veut avoir quelque chose de très plan, voilà, on a vraiment besoin de faire sécher sous poids, sous presse. Et voilà, c'est vraiment un outil. Indispensable en reliure. Alors il faut faire attention, ça c'est ce qu'on appelle la conservation préventive, hein. C'est-à-dire que dans l'idéal, il faudrait avoir entre 50 et 55% d'humidité. La température, il faudrait que ce soit entre 18 et 21 degrés, mais voilà, c'est pas toujours évident d'avoir ces contraintes-là. Et ce qui est embêtant pour les documents, c'est les différences de température ou les différences d'hygrométrie qui sont très brusques. Quand ça se fait petit à petit, mais quand vous vous retrouvez du jour au lendemain de 50 à 80% d'humidité, voilà, ça c'est les ouvrages n'aiment pas du tout ça. Hein. Donc c'est vrai qu'il faut éviter, mais après dans les maisons c'est compliqué. En institution on peut climatiser les lieux, mais dans les maisons c'est un peu compliqué. Donc moi ce que je conseille aux gens, c'est pas les mettre à la lumière directe, au soleil direct, et puis d'aller consulter les livres tous les 6 mois, tous les ans, d'aller jeter un petit œil à cette bibliothèque pour voir qu'il n'y ait pas un petit insecte qui se soit installé. Voilà, juste les feuilleter, c'est l'occasion de les dépoussiérer en même temps. Bon, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'une année passe vite et qu'on oublie souvent ces ouvrages. Hein. Voilà, mais qu'ils soient dans un lieu qui soit assez aéré quand même, pas d'humidité. Voilà, ça c'est de la conservation préventive. Pour l'installation des grosses pièces, hein, c'est vrai qu'il faut, il faut se voir travailler. Voilà, quand on installe tout ça, il faut s'imaginer en train de travailler pour que les choses soient pas trop loin. Voilà, quand on me propose une personne qui est âgée ou qui ne veut plus faire de reliure, me propose son fond parce que parfois je vais pouvoir retirer un petit quelque chose qui sera intéressant pour moi. Pour la couture d'un ouvrage composé de cahiers, donc ce ne sont pas des feuilles simples, on utilise le cousoir, hein, qui va nous permettre de monter cette couture cahier après cahier avec un fil qui va pouvoir permettre la couture de plusieurs cahiers. Donc le cousoir est composé d'une base en bois, voilà, dans lesquels rentrent deux morceaux de bois verticaux, donc qui ont un filetage. Voilà, ça, je trouve ça toujours très émouvant. Voilà, c'est un travail de tournage qui est très chouette, ouais, parce que c'est vraiment très beau ces filetages. Celui-ci est très bien fait. Et il y a une barre transversale, voilà, qui vient s'enquiller dans ces barres verticales. Sur cette barre transversale, on va monter des ficelles ou d'autres choses, ça peut être d'autres choses. Ça, généralement, ces ficelles ne se voient pas une fois l'ouvrage terminé, cette couture ne se voit pas. Et moi, ce que j'aime bien quand des clients sont d'accord avec ceci, c'est de faire une reliure un peu particulière. Donc j'utilise, voilà, les ciseaux pour couper cette ficelle. d'utiliser d'autres choses et puis de laisser cette couture apparente. Donc, pour montrer ce travail de couture qui peut être très, très beau si on a dessous des cahiers de qualité. Et donc là, on utilise de la ficelle. Les premières reliures étaient faites sur des coutures sur nerfs. Mais les nerfs, ce n'étaient pas du tout des nerfs de bœufs, comme on a pu le penser, comme certains peuvent le penser parfois. C'est des fils de cuir, des liens de cuir, qui sont coupés en deux, généralement, pour faire une couture qui est très longue. Contrairement à la couture qu'on fait actuellement, voilà, au fil des ans, au fil des siècles, on a épuré et on a essayé d'aller plus vite dans cette reliure artisanale, qui est toujours très... C'est toujours un travail long, hein, mais beaucoup moins long que les premières reliures. Hein. Et voilà, donc ce qu'on fait actuellement, ce qu'on apprend à faire en reliure, c'est la couture grecquée. Et voilà, donc je pose cette petite barre qui s'appelle le templet. Voilà, une fois que j'ai fixé donc mes ficelles aux chevillettes, et je peux mettre l'utilité des... de ce filetage là en bois, c'est de pouvoir tendre les ficelles pour qu'elles aient la bonne tension. Là voilà, il faut qu'elles soient suffisamment tendues. Et après, on va cahier par cahier, on va monter notre reliure. Donc là, je vous montre, c'est un livre blanc, hein, mais voilà, normalement ça se fait sur un livre imprimé ou manuscrit, bien sûr. Voilà, donc ces ficelles se mettent en face de ces encoches que j'ai pu faire. Grâce à l'étau d'ailleurs, je mets mon livre dans l'étau et je fais ces entailles avec une scie. Et après, grâce à une ficelle, ou plutôt un fil, voilà, donc j'ai différentes grosseurs de fil, suivant la taille de mon livre et la qualité de mon papier. Voilà, le fil, je le mets sur une aiguille et je vais coudre. Voilà, donc j'ai des aiguilles à bout rond, des aiguilles à bout pointu. Voilà, et le principe de la reliure, voilà, c'est reliure, c'est relier. Donc voilà, je rentre dans le premier trou de cahier qui s'appelle la chaînette, le trou de chaînette. Et avec l'aiguille et le fil, je vais passer de part et d'autre des ficelles que j'ai tendues. Là, pour cet ouvrage, j'ai mis 3 ficelles parce que c'est un livre blanc de petite taille, mais on peut en mettre 4, on peut en mettre 5, voire 7 ou 8 suivant la taille de l'ouvrage. Voilà, donc on passe voilà, de trou en trou pour aller jusqu'au bout du cahier. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on prend le cahier suivant. Donc voilà, la tension du fil est essentielle. Voilà, c'est vraiment très important. La couture, c'est très agréable à faire, mais il faut vraiment être précis, parce que si on n'a pas choisi la bonne grosseur de fil, et si le fil n'est pas suffisamment tendu, bah après, toute la reliure va s'en ressentir. Il faut beaucoup de minutie, beaucoup de patience pour faire ce métier-là. Et ce qui est intéressant, voilà, enfin moi ce que je trouve vraiment intéressant dans la façon dont je pratique mon métier, c'est le fait d'avoir des connaissances en reliure et en restauration de livres anciens. Ça me permet d'utiliser les techniques anciennes qu'on n'apprend pas quand on passe son CAP de reliure. Hein. On apprend vraiment cette couture traditionnelle, cette reliure traditionnelle comme on la fait actuellement, mais on n'apprend pas les techniques anciennes. Et donc la connaissance de ces techniques anciennes permet de les adapter aussi sur des ouvrages récents et de faire un mix des deux et de faire des choses surprenantes et intéressantes. Alors ce qui est amusant, c'est, voilà, c'est quand j'ai des ouvrages anciens que je dois restaurer et que j'ai des... Voilà, il y a des, quand je vois les marques du pinceau sur une page que je viens de décoller. Donc ce pinceau a été tenu par un relieur, quelqu'un qui faisait le même métier que moi.
Est-ce qu'il avait la même passion? Est-ce que voilà, on peut imaginer la vie à l'époque? Où est-ce qu'il a été fait? Est-ce que c'était dans un monastère? Est-ce que c'était dans un atelier d'imprimeur, puisque les imprimeurs avaient souvent leur atelier de restauration, de reliure? Où est-ce qu'ils avaient trouvé leurs matériaux? Tout ça, c'est passionnant aussi. Par exemple, quand les ouvrages étaient écrits sur parchemin, il fallait énormément de peau de bête pour écrire. Voilà, c'était manuscrit, hein, c'était pas de l'impression. Donc d'où venaient ces troupeaux, voilà, les migrations aussi, savoir si à cet endroit-là il n'y avait pas de moutons, comment ils faisaient pour faire venir. Et puis après, quand il y a eu le papier aussi, hein, donc les papiers, est-ce qu'ils venaient d'Italie, est-ce que c'était un moulin français, est-ce que il y a toute cette histoire qui est vraiment passionnante, ouais. Et puis d'être dans les pas de quelqu'un qui exerçait le même métier que moi il y a 500 ou 600 ans, moi, ça me crée énormément d'émotions, effectivement. Ouais. Mais je pense que tous les métiers patrimoniaux, tous les métiers pour lesquels qui ont besoin de restauration dans l'architecture, quels que soient les métiers, je pense qu'on a la même émotion. Je permets la transition. Je permets la transmission de savoir, la transmission de biens. Voilà, c'est une Bible protestante. Elle est arrivée dans une famille. Qu'est-ce qu'elle a traversé, quoi, cette Bible protestante? On connaît l'histoire du protestantisme. Est-ce que ça a été douloureux? Est-ce que ça a été caché? Est-ce que ce document, à un moment, a dû disparaître pour protéger les gens? Est-ce que, voilà, il y a le livre de cuisine aussi. C'est beaucoup d'émotions. Voilà, c'est tout bête, c'est un livre de cuisine. Enfin, il y a des gens qui viennent parfois... un livre de cuisine qu'on peut trouver actuellement. Et quand je sais que je vais y passer un certain nombre d'heures, je leur dis, mais vous trouverez le même, peut-être, à la librairie ou sur Internet, et pour 10 euros. Et non, c'est celui-ci qu'on veut garder. Et moi, ça me touche beaucoup, quoi. C'est toutes ces histoires, hein, toutes ces histoires que je ne connais pas, hein, mais ça permet de les transmettre aux générations futures. Et pour moi, ce n'est pas un devoir, mais enfin bon, c'est encore de l'émotion.
C'était Radio Trip en Occitanie, un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. Les radios du CRLO ont quitté leur département de diffusion pour aller à la rencontre de nos campagnes afin que ces acteurs puissent s'exprimer sur les difficultés mais aussi les réussites de cet arrière-pays qui doit faire face aux mouvements de la société et les difficultés qu'elle provoque. Mais le monde rural ne s'en laisse pas compter et trouve des réponses avec l'engagement de ses citoyens et de sa population de façon exemplaire. Radio Trip en Occitanie, une série de 12 documentaires proposés par les radios du CRLO en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Retrouvez l'intégralité de ces 12 documentaires en podcast sur les sites web des radios du CRLO ou sur le site du CRLO www.crlo.fr.